Geneviève Peterson.
Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
On va parler très, très bientôt de ce nouveau rapport de l'ONU sur la crise climatique qui souligne que les indicateurs des changements climatiques sont en hausse. Puis ça se passe quelques jours après la publication d'un portrait inquiétant de projets d'exploitation d'hydrocarbures ultra polluants appelés des bombes de carbone. Et on sait, quand on utilise des expressions comme ça qui frappent l'imaginaire, je naisse souvent avec les sites météo là qui disent météo compliqué, à venir une tempête météorologique, mais n'empêche que c'est vraiment une vraie expression, bombe de carbone, puis on va apprendre dans quelques secondes. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On est avec Eddy Pérez, qui est directeur de la diplomatie climatique internationale au réseau Action Climat Canada et accessoirement chargé de cours à l'UDM. Monsieur Pérez, bonjour.
Bonjour.
Bon, je dis accessoirement, mais vous comprenez que je vous taquine. OK. Bombe climatique, est-ce qu'on peut s'expliquer tout de suite ce à quoi on fait référence quand on parle de ça? Parce que ça a l'air d'une grosse expression là, quand on parle de bombe de carbone pour nous faire peur. Là, juste expliquer c'est quoi peut-être ces bombes de carbone.
Ce que ça veut dire, en fait, en soi, c'est que l'industrie fossile actuellement, elle planifie l'expansion, la création de nouveaux projets, l'approbation de nouveaux projets qui vont exploser le budget carbone. Ça veut dire la quantité de CO2 qu'on peut émettre pour limiter la hausse de température à 1,5 degré Celsius, même 2 degrés. C'est ça que le mot bombe veut dire dans ce contexte.
OK, bon, maintenant qu'on a déterminé ça, là, on est devant cet autre rapport qui fait état de la situation critique. Un autre, on dirait qu'on est dans le jour de la marmotte, pour vrai, M. Pérez, avoir tous ces rapports qui se suivent et qui, malheureusement, se ressemblent.
Ouais, je pense que, en fait, ce sont des rapports différents. Il y en aura d'autres. Hein. Là, il y aura un autre rapport du GIEC qui va nous expliquer aussi, en fait, l'état de la situation par rapport aux dernières recherches scientifiques. Il y en a le quatrième, en fait, le rapport de synthèse qui sort, en fait, cet été. Mais je pense qu'il faut voir ce qu'on dit en anglais, là, le big picture de tout ça. Puis c'est que lorsqu'on parle de transition écologique, là, ou de transition environnementale, il faut tenir en considération aussi le lien avec tous les autres systèmes de notre vie. Et donc, c'est ça que ces rapports-là sont en train de nous expliquer, c'est que on fait face là, en ce moment, à un choc énergétique avec des prix du pétrole qui sont extrêmement élevés.
Ah,
on
oui.
fait face aussi à des problèmes de sécurité alimentaire. On fait face aussi à des conflits géopolitiques. Le tout en même temps qu'on vit une crise climatique qui a des impacts considérables. Et donc, dans ce contexte-là, par-dessus tout ça, ben les particules par million, les tonnes de CO2 sont à un seuil aujourd'hui historique. Et ces rapports-là, en fait, font état surtout d'un alignement des crises et donc demandent aussi qu'on puisse avoir des réponses à la hauteur de la crise.
Oui.
C'est ça qu'il faut voir, en fait, entre ces rapports-là qui sortent l'un après l'autre.
Oui, puis on disait, ce matin, je pouvais lire qu'on avait enregistré les 11 années les plus chaudes. Mais tu sais, je trouve ça intéressant que vous me parliez des différents indicateurs là, qui nous permettent un peu de mesurer cette crise-là, la hausse des prix de l'essence, les prix des denrées, les conflits géopolitiques. Puis tu sais, avant que ça soit politique, l'environnement, il n'y a aucun parti qui s'est attaqué à ça de façon tellement sérieuse, des partis au pouvoir. Je parle parce que ça ne devenait pas un enjeu politique. Là, je pense peut-être avec les jeunes générations, puis ce qu'on est en train de traverser, ça va le devenir. Là, mais c'est la question justement des impacts, parce que c'est dur de sensibiliser la population avec des grands indicateurs qui veulent un peu parfois rien dire dans nos vies à nous directement. Là, tout le monde est super égoïste. Mais là, flambée des prix de l'essence, la bouffe, ça n'a plus de bon sens. On les voit, les changements climatiques. Pour vrai, il y a une canicule la semaine passée au mois de mai. Il y a de la sécheresse. Est-ce que vous pensez que ça, là, à ce moment-ci, ça va aider les gens à vouloir des changements, à demander des changements?
Oui, absolument. Parce que les impacts des changements climatiques, ça nous rappelle le point le plus important, en fait, que oui. notre façon de vivre ces changements, il est lié à notre identité, à notre territoire, notre identité à la communauté où on appartient. Les changements climatiques, ces impacts-là sont très localisés. Ils font partie, en fait, des activités quotidienne. Donc oui, les rapports nous donnent des indicateurs globaux, mais il faut faire un sens avec notre quotidien. Tôt cette semaine, le gouvernement fédéral a mis de l'avant une nouvelle politique pour une nouvelle stratégie et une consultation sur l'adaptation au changement climatique. Et donc, lorsqu'ils ont présenté cette stratégie-là, et quand on m'a demandé, mais qu'est-ce que vous en pensez, moi, la réponse qui m'est venue en tête, c'est, ben, il faut bâtir un dialogue. Tout comme pour la transition juste, il faut bâtir un dialogue. Parce que la meilleure façon de faire de cet enjeu-là l'urgence qui lui revient, tant en termes de réponse, mais aussi comment est-ce qu'on bâtit en fait une réponse beaucoup plus collective, c'est en discutant.
Mais vous pensez pas qu'on est au-delà de la discussion, M. Perez, parce qu'on dirait que ça fait des années qu'il y a de la sensibilisation qui est faite, mais c'est juste par le portefeuille que les gens entendent le bon sens. Le prix de l'essence qui est haut, qui doit, je pense que ça fait des années qu'on paye pas l'essence le juste prix finalement. Là, tu sais, on paye pas les conséquences de nos choix. Faites-nous payer l'eau. Faites-nous payer plus cher toute l'énergie, l'électricité, tout ça, puis les gens vont arrêter de gaspiller puis de penser qu'il n'y a pas de fin. Non, je sais que c'est plate de se dire mais on est peut-être un peu rendu là, de dire, écoutez, là, on vous a dit, vous voulez pas, on vous tord un peu le bras. Bye-bye.
Moi, je pense il y a deux choses. La première, c'est, quand je parle de discuter, c'est de faire lumière, en fait, des impacts de changement climatique dans notre quotidien.
Oui.
Notamment, par exemple, en ce qui concerne les impacts qu'une canicule a sur notre santé et pourquoi il faut avoir des services publics pour lutter contre les impacts de cette canicule-là. Mais vous avez raison. En fait, dans la transition, on n'a pas le choix. Hein. Il faut s'adapter et il faut faire une transition. Soit que cette transition-là, elle va être menée par des mesures très rigide, comme celle dont vous en parlez, soit on prend le choix de l'équité et de la justice climatique. Et dans ce cas-là, le problème qu'on voit actuellement, c'est une incohérence quand même assez grande. Au moment où on vit les pires catastrophes climatiques enregistrées jusqu'à maintenant, les pétrolières sont en train de gagner des milliards de dollars en surplus.
Non, mais pas
de
juste les pétrolières. Lâchons-les, les pétrolières, un peu, là. Parlons de
mais
nous, là.
Je sais pas si on peut.
Ben non, mais lâchons-les pas globalement. C'est pas ça que je veux dire, mais pendant qu'on vit les pires catastrophes climatiques, là, M. Perrage, je veux dire, moi, je suis chez nous avec mon air climatisé puis ma piscine, là, je m'entorche un peu. Comprenez-vous? Je veux dire, c'est ça qui se passe. C'est que les gens, ils ont plein de moyens pour contrer ces effets-là. C'est, je veux dire, s'il fait 40 dehors puis t'as la clim en dedans chez vous, tu dis, bah, pas grave. Tu sais, mais si ça te coûte 1 000$ par mois, la faire rouler ta clim l'été, tu vas peut-être y repenser à deux fois. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ben, oui, il y a les pétrolières, puis il y a les industries, mais il y a aussi les citoyens.
Je comprends. Et là-dessus, en fait, moi, je vous dirais, jusqu'à ce qu'il y ait une inondation dans l'un des banlieues à Montréal, comme on l'a déjà vu par le passé.
C'est vrai.
Et là, donc, c'est ça le truc. C'est que si on veut parler vraiment du point individuel, mon argument là-dedans, c'est l'accès. Parce que c'est vrai que moi, vous, grande partie des gens au Québec peuvent avoir un air climatisé. On peut peut-être passer au travers d'une canicule. Mais dites ça à quelqu'un, par exemple, à Montréal-Nord.
Oui, qui n'a pas la clim, qui est dans un 4,5, qui est dans un îlot de chaleur.
C'est ça. Et donc, pour moi, c'est une question d'accès. Et lorsqu'on parle, en fait, de questions individuelles, mais il faut peut-être se rappeler aussi, là, qu'au Québec, on est choyé d'habiter dans une région où on a les moyens, en fait, on a des moyens pour absorber cette transition-là, mais il y a des gens qui ne peuvent pas. Et là-dessus, je pense que cette question-là le poids individuel à porter pour la transition énergétique, ben, c'est aussi une question d'inégalité sociale.
Parce
et donc,
Québec...
si on veut parler d'individus, parlons aussi sur comment le gouvernement vont s'attaquer à ces inégalités parce qu'elles existent. Et moi, là-dedans, là, normalement, on se sent coupable. Hein, on se sent coupable parce que j'ai pris l'avion une fois ou quelqu'un a mangé un morceau de viande. C'est pas ça. Là. À l'intérieur de la transition énergétique, il y a une question d'inégalité sociale qu'il faut régler.
C'est tellement
on l'a vu pendant la pandémie.
Ouais.
La pandémie. Elle s'applique aussi au climat.
Bon, maintenant, on va en parler des méchantes pétrolières. Hein? Bon. Non, mais les bombes de carbone, là, tu sais, je disais, puis c'est quand même assez troublant qu'au Canada, on a 12 projets qui, en soi, là, ces projets-là, à eux-mêmes, c'est assez pour faire échouer tous les efforts qui sont prévus pour s'attaquer au changement climatique. Pourtant, on va de l'avant avec un projet comme Baie du Nord. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe?
Irresponsable, et c'est l'état actuel de la politique au Canada, surtout au Canada, parce que le Canada per capita est surreprésenté dans ce genre de bombes carbone. Et donc, c'est irresponsable. Ça démontre en fait que le souci des politiciens actuellement est toujours sur des questions économiques. Ils ne mettent pas en considération les questions climatiques. Au Canada,
puis on s'entend-tu, je m'excuse de vous interrompre, M. Pérez, mais on s'entend-tu que faire des mauvais choix pour le climat, pour l'environnement, à la fin de la journée, là, bon an, mal an, les impacts économiques seront incroyables, incroyablement négatifs.
Oui, absolument. Puis on les évalue mal, hein. Que ce soit, je ne sais pas si vous avez suivi, mais pour le projet Trans Mountain, aujourd'hui, le gouvernement fédéral a dû approuver, encore une fois, une ligne de crédit de 10 milliards de dollars parce que les coûts, en fait, qui ont été mis de l'avant par la compagnie ont été sous-évalués.
Mais
au
c'est ça qui est choquant.
C'est comme ça que ça va.
On facilite la vie à des industries qui détruisent les écosystèmes. Oui, parce que ça génère des emplois, mais c'est tellement une courte vue.
Ben, pas beaucoup d'emplois non plus, hein. C'est déjà prouvé aussi. Je ne sais pas si vous avez vu récemment là à quel point pour la question de Baie du Nord, les rapports disaient que il y avait l'évaluation avait été botchée. On avait déjà prouvé aussi que oui, ok, il y avait vraiment un argument sur la transition pour la province, mais la décision elle a été rushée. Et donc, il y avait des choses, en fait, qui sortaient du jour au lendemain. Aujourd'hui, le Canada devra payer à peu près 200 millions par année à l'agence de l'ONU parce que ça se situe, en fait, dans un territoire international, même si c'est également dans un territoire canadien, dans un océan proche du Canada. Et donc, de ce point de vue-là, c'est ça le problème, c'est qu'on donne de l'argent à des pétrolières, mais parfois, on ne se soucie pas, en fait, des conséquences, que ce soit politique, géopolitique et aussi climatique. Et donc, actuellement, on a vu que pendant la pandémie et alors, en ce moment-là, avec la guerre en Ukraine, dans les deux cas, ce sont les compagnies pétrolières qui, elles, utilisent, en fait, instrumentalisent ces crises-là pour faire valoir leur projet d'expansion. Bon. Ça veut juste dire que chaque fois que vous entendez une pétrolière parler de climat, ben vous devrez peut-être douter en fait de leurs intentions.
Ben oui, parce que celui qui paye, c'est lui qui parle. Donc ça, c'est une bonne vieille règle en com. Là. Mais M. Pérez, dites-moi, là, on parle de tout ça. Il faut que les gouvernements mettent leurs culottes et agissent. Est-ce que les libéraux, c'est le gouvernement pour faire ça? Parce que si c'est pas eux, ce sera possiblement les conservateurs, le NPD. Je veux dire, qui serait le meilleur gouvernement de façon réaliste là, pour avoir des actions climatiques qui font du sens?
Ben écoutez, il y a en ce moment, là, dans le rapport du GIEC, puis on en a déjà parlé, mais le rapport du GIEC a dit quelque chose de clair. L'inaction actuellement des gouvernements, là, elle nous mène vers des désastres climatiques en vue. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de contestations. Si le gouvernement n'est pas capable de le faire, ce sera les cours. Si c'est pas le système légal, ça va être la rue. Si c'est pas le gouvernement provincial, ça va être les villes. C'est ça la réponse actuellement. Et on peut pas juste se fixer sur les actions inadéquates du gouvernement fédéral.
Oui.
En ce moment, ce sont les villes qui demandent en fait que.
Ben c'est ça, Monsieur Pérez. Laissons-nous sur ces paroles de notre collaborateur Marc-André Leclerc qui a dit ici même à cette émission que la principale opposition au gouvernement de la CAQ au Québec en ce qui concerne bien des dossiers, surtout l'environnement, ce sont les maires des villes. Je pense que eux peuvent faire une différence. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Merci à vous.
Édith Pérez, qui est directeur de la diplomatie climatique internationale au réseau Action Climat Canada, enseignant aussi à l'UDM. On se parlait de ce nouveau rapport de l'ONU sur la crise climatique.